Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Ça y est, nous sommes dimanche soir. Coucou, bonjour mon Pierre.
Salut ma Lolo, comment ça roule?
Ben ça roule plutôt bien, dimanche soir. J'espère que pour tout le monde le week-end a été très très bon. Nous vous accompagnons jusqu'à 19h. Un numéro de téléphone évidemment pour contacter l'émission et réagir tout de suite. 0826 300 300. Et ou sur mail, jeparticipe@sudradio.fr. On prendra vos coordonnées, vous mettez bien Sarroul dans l'objet de votre mail et puis on vous fera participer, par exemple dimanche prochain, si vous avez envie d'être avec nous. Au programme, aujourd'hui, électrique.
Ouais, ça va être un peu ça, parce qu'on va se poser la question du prix de la recharge électrique. On a vu tourner comme ça un papier, un article qui sous-entendrait que le prix d'un plein d'électricité coûterait à peu près la même chose que votre bon vieux plein de diesel ou d'essence. Donc on va se poser cette question et puis on va aller du côté d'une solution d'électrification de votre voiture. Admettons, vous aimez votre titine, vous voulez la garder et puis elle n'a pas le droit de circuler à cause des zones à faible émission. Là, eh bien, il y a peut-être une solution pour pouvoir la garder. Ça s'appelle le rétrofit et on en parlera avec Arnaud Pigounides, Laurence, qui sera notre invité. Il s'occupe de rétrofit électrique et il va vous présenter tout ça.
Allez, on est avec vous, bien sûr. Ça roule sur Sud Radio, 0826 300 300. On vous attend pour réagir à ces deux questions. Est-ce que on nous prend pour des idiots? Est-ce que rouler en électrique coûterait pratiquement aussi cher, voire plus cher, surtout si on remet ça, évidemment, rapporté à l'autonomie qu'une voiture thermique. Et puis, leur sujet 2, seriez-vous prêt à faire transformer le moteur de votre voiture thermique en électrique, surtout, par exemple, à l'approche des ZFE? On vous attend.
Sud Radio, ça roule.
Et pour parler du premier sujet, nous allons accueillir un grand journaliste auto, entre autres pour le Figaro, réputé, reconnu comme étant l'un des plus grands spécialistes de la voiture aujourd'hui. Sylvain Resser, bonjour.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre.
Salut Sylvain.
Merci d'être avec nous. Alors comme ça, vous avez fait trembler la sphère Internet, Twitter, tout le monde, tous les réseaux sociaux, parce que vous avez fait et vous avez pondu, enfin commis plutôt, un article sur le fait que en véhicule électrique, le kilowatt, serait aussi cher que l'essence. Qu'est-ce?
Alors, je voudrais pas que les auditeurs pensent que toutes les voiture électrique coûte plus cher à recharger qu'une voiture à essence. Hein. Faut pas se méprendre. C'est pas vrai partout, mais en tout cas, ce qui m'est arrivé récemment, c'est que si vous rapportez le coût à l'autonomie du véhicule, ça peut coûter aussi cher qu'un plein de diesel. Je suis allé dans la Marne avec une MG Marvel et je me suis arrêté à une borne de recharge Ionity sur l'autoroute, pour pas les nommer. Et en fait, le kilowattheure est facturé au temps. Donc, on paye 87 centimes la minute, alors que dans d'autres réseaux, on va payer au kilowattheure, justement. Et là, j'ai payé, pour tout vous dire, j'ai payé 28,74 € très exactement, pour recharger 33 kilowattheures avec une voiture qui consommait plus de 23 kWh au 100 km, ça me donnait 230 km d'autonomie.
Wow.
Donc, si vous rapportez le coût à l'autonomie par rapport à l'équivalent en diesel, eh ben, ça coûte aussi cher.
Alors Sylvain, c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que ça pose la question de l'autonomie réelle du véhicule électrique. Ça pose déjà deux questions. La première, le décalage entre la recharge à domicile, quand on charge notamment de nuit sur sa propre prise, où on peut bénéficier de tarifs avantageux en termes d'électricité. Et puis, la deuxième question, eh bien, ça va être celle de l'autonomie réelle. Pourquoi? Parce que le véhicule électrique, quand il est donné à jusqu'à 400 km, ouais, jusqu'à, mais il faut savoir que les 150 derniers bornes, vous allez faire en poussant la bagnole. Hein. L'autonomie réelle du véhicule électrique n'est pas au niveau de la promesse, Sylvain.
On est tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'un constructeur qui va annoncer ce que vous étiez en train de dire, 400 km d'autonomie homologuée, dans la vraie vie, sur l'autoroute ou en roulant à 130 km/h, qui est la vitesse légale, eh ben, on va consommer
30%.
Beaucoup plus, 25 à 30% de plus. Donc on n'aura pas 400 km d'autonomie, bien évidemment, mais plutôt entre 230 et 250 km.
Ouais, sauf que les tarifs qu'on nous donne, quand on vous dit bon, alors l'électrique, ça vous coûte 2 euros pour 100 km, eh bien non. Eh bien non, pourquoi? Ben parce que ça tient, c'est la promesse qu'on fait aux Français sur la base d'une optimisation parfaite de la batterie, ce qui n'est jamais le cas, avec en plus des tarifs à domicile avantageux, rechargés de nuit aux heures creuses. La réalité, c'est que oui, ça coûte quand même un peu moins cher quand on charge à domicile que si on avait une thermique. Mais le principe de la voiture, c'est qu'on ne charge pas toujours chez soi, malheureusement. Mmh. Et que là, la facture peut être salée. Alors, j'ai lu que Ionity, pour les nommer, allait modifier leur mode de facturation et ne plus facturer autant, mais au kilowatt, comme c'est le cas chez leurs concurrents.
Exactement.
Ouais.
Exactement. À partir du mois de juillet, théoriquement, ils vont basculer sur une tarification au kilowattheure.
Alors, avant de continuer, il y a Guillaume qui a fait le 0826-300-300 pour réagir. Je vous rappelle la question, est-ce qu'on nous prend pour des idiots à nous dire depuis le début que ça nous reviendra moins cher de rouler en électrique? Venez nous donner votre avis, vous. Bonjour Guillaume.
Bonjour Laurence et bonjour Pierre.
Salut, vous Guillaume. Habitez où Guillaume?
J'habite à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône.
Oh, j'aime bien, on aime bien. Pas trop chaud là, ça pète un peu là en ce moment. Hein.
Ouf, un peu là.
Ça cagne. Oh,
c'est bon, c'est l'été, il fait beau, on va pas se plaindre. Moi je peux faire ça. Mais ouais, c'est pas. Il y a la clim en plus.
Ah ouais, non mais alors ça.
Dans la voiture.
Guillaume, votre avis alors vous par rapport à ce papier qui est paru dans le Figaro de la semaine du 15 juin, c'était quelques jours avant d'ailleurs. Voir recharger la batterie de sa voiture électrique sur un trajet conséquent reviendrait aussi cher que de faire le plein de carburant. Vous en pensez quoi?
Bah, moi, pour mon cas personnel, hein, mais peut-être que beaucoup de Français aussi, avant j'avais une Berlingo et j'ai fait des petits calculs. Mmh. On allait à Toulouse régulièrement 5 fois dans l'année pour aller voir la belle famille. Mmh. Et ça me coûtait, à une voiture qui consomme quand même 8 litres au 100, donc c'est à taille du coffre, c'est équivalent à ma Tesla Model 3, donc ça n'y a pas de souci. Ça consomme beaucoup et j'étais sur un plein à 71 euros, ouais, pour faire 400 km. Ouais. Avec ma Tesla, j'ai regardé sur les factures tout à l'heure pour ne pas vous dire de bêtises. Mmh. À l'aller, on a payé 13 euros un superchargeur à Narbonne, donc on a fait une charge. Mmh. Et au retour, pareil, au superchargeur de Narbonne, 13,4 euros, donc 26.
Trois fois moins cher.
Voilà, donc moi, pour mon cas, là, j'ai payé trois fois moins cher d'électricité et que le carburant. Donc c'était une essence en samplon 98. Dans ce cas, voilà, moi, pour moi, c'est moins cher. Et je le remarque, ça fait maintenant 2016 que j'ai une voiture électrique et mes factures d'électricité. Alors comme l'électricité monte, mes factures n'ont pas baissé. N'ont pas augmenté, mais à chaque fois je complète par la voiture électrique.
Alors Guillaume, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous faites partie de ceux qui ont acquis un véhicule électrique au moment où c'est encore avantageux. Ça va pas le rester, hein. Ça va pas le rester. Là aussi, on oublie de préciser aux Français que les taxes carburant rapportent plus de 40 milliards chaque année à l'État, que si demain tout le monde bascule à l'électrique, il va manquer 40 milliards d'euros dans les caisses et qu'il va falloir appliquer une fiscalité à l'énergie électrique. Ça, c'est le premier point. Donc c'est la première mauvaise nouvelle qui va nous tomber sur le dos à tous, parce que malheureusement, on veut tous nous faire rouler en électrique. Le deuxième point négatif, j'ai réécouté l'interview de Jean-Baptiste Djebbari, qui était alors secrétaire d'État au transport, et qui expliquait que s'il y avait une bascule, une transition vers le véhicule électrique, il fallait 4 à 16 fois plus de production d'énergie électrique en France pour alimenter les voitures. 4 à 16 fois plus. Oh. Ça veut dire que, comme c'est pas possible, ça veut dire que le véhicule électrique doit redevenir élitiste. On va pas pouvoir promettre à tout le monde de faire des trajets de 700 bornes, donc y compris votre voyage à Toulouse. Donc on va se retrouver, quelle est la solution quand on veut limiter l'usage de quelque chose? C'est facile, regardez, l'usage de la cigarette, l'État a voulu le limiter. Il augmente le prix. Donc qu'est-ce qui va se passer si demain on n'a pas assez d'énergie électrique pour couvrir le parc automobile qui est composé de plus de 53 millions de voitures aujourd'hui? Et 39 millions de roulants. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va monter la fiscalité. Mmh. Donc l'énergie électrique, pour l'instant, bonne idée pour ceux qui en sont possesseurs et qui louent tous les avantages. Je le vois bien, ceux qui sont passés à l'électrique sont très heureux d'y être. Pas pour longtemps.
Alors, je voudrais avoir la réaction, si vous le voulez bien, Guillaume, de notre invité, Sylvain Resser, journaliste auto au Figaro, par rapport à sa propre expérience. Et on explique bien que c'est par rapport à l'autonomie qu'il a fait ce constat. Ouais. Par rapport à ce que disait Guillaume, Sylvain, votre avis?
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Guillaume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Tesla est un peu l'exception, c'est-à-dire qu'avec son propre réseau de superchargeurs, aujourd'hui, les possesseurs de Tesla bénéficient de conditions avantageuses pour faire le plein d'électricité. Mais je rejoins un peu Pierre, je suis pas sûr que ça dure encore très longtemps. Mais bon, donc ça c'est une spécificité de Tesla. Mais pour la plupart des possesseurs de véhicules électriques qui roulent pas dans la voiture américaine, effectivement, ça peut coûter beaucoup plus cher, sachant que bien évidemment, l'autonomie d'un véhicule électrique est quand même bien inférieure à l'autonomie d'un véhicule thermique. Et il faut mettre ça en perspective, parce que ce qu'on dit pas, c'est que là, par exemple, moi, je me suis arrêté pour faire 450 km, je me suis arrêté 1h15.
Et encore.
Et donc, tu as acheté quelque chose, parce que 1h15 dans la bagnole, on n'y reste pas. Donc, on va sur l'aire d'autoroute, on consomme. Donc ça, il faut le rajouter au prix du plein.
Et puis, attention, là, vous pointez quelque chose d'important. Vous êtes sur l'autoroute. Ça veut dire que si vous avez envie, en partant en vacances, de faire les petits chemins de traverse, parce que c'est ça que vous aimez aussi, vous êtes obligé un peu de prendre l'autoroute si vous voulez avoir des stations dignes de ce nom.
Il y a quelques chargeurs, mais il n'y en a pas beaucoup.
Non, non, mais voilà, quand même, Sylvain.
Ça, c'est pas possible aujourd'hui de prendre les chemins de traverse et les petites routes.
Donc on est obligé, en fait.
Le réseau, le maillage des infrastructures est encore très faible.
On nous avait promis un nombre à 6 chiffres pour les bornes de recharge, plus de 100 000 bornes de recharge. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Mmh. Et il faut pas regarder le nombre de bornes de recharge, il faut regarder les recharges rapides. Parce que les bornes de recharge où on recharge pendant 8 heures sa voiture, ça n'a strictement aucun sens. Et sur les bornes de recharge rapides, là, Laurent, je te rejoins. À part quelques exceptions, on va trouver quelques bornes par-ci, par-là, dans les grandes villes. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de bornes de recharge rapide, vraiment rapide, en dehors de l'autoroute.
Alors moi, je suis pas contre l'électrique, vous le savez.
Non,
et sur Ça Roule, on n'est pas contre l'électrique. C'est juste qu'on est contre le fait qu'on nous l'impose d'une façon hyper brutale. Vous parliez effectivement de s'arrêter sur la station, donc d'aller acheter quelque chose parce qu'il faut attendre une heure pour faire le plein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des coûts, des conséquences à côté financières que tout le monde ne va pas pouvoir assumer non plus.
Ça veut dire que la voiture va redevenir élitiste. Alors Guillaume est toujours avec
nous.
Alors
on mettra notre petite pique-nique dans la glacière comme au temps des premières vacances.
Je vais revenir vers Guillaume, mais c'est une évidence. Quand on a un prix de l'électricité qui va forcément monter avec des taxes qui vont augmenter, il y aura d'un côté les privilégiés. Voilà, Guillaume, nous, on en fera peut-être partie.
Il y a une fracture sociale aussi.
Mais bien sûr, il y a une grosse fracture sociale qui va se créer entre la France qui peut se payer sa voiture et qui peut continuer à rouler, et puis celle, malheureusement, qui regardera les autres sur Blablacar, quoi. Ouais. Voilà.
Guillaume, merci beaucoup d'être intervenu dans Ça Roule ce soir pour la fin du week-end sur votre avis. Donc vous ne constatez pas, au contraire, vous constatez plutôt d'ailleurs des baisses et des économies en ayant une voiture électrique sur les pleins. On continue de parler tout cela avec notre invité et on vous attend 0826 300 300. Est-ce que vous avez l'impression effectivement que ça vous coûtera aussi cher, voire plus cher, d'avoir une voiture électrique qu'une voiture thermique? À tout de suite.
Sud Radio Ça Roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous continuons avec vous, bien sûr, Ça Roule jusqu'à 19h. Dans quelques minutes, nous vous proposons un sujet sur les voitures thermiques que l'on pourrait échanger, tout du moins faire évoluer en voiture électrique, surtout à l'approche des ZFE. Seriez-vous prêt à transformer le moteur de votre voiture thermique en voiture électrique? On en parlera entre autres avec le fameux système rétrofit. Mais tout de suite, on continue sur ce papier qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a d'ailleurs malheureusement coûté à Sylvain Resser, notre invité, quelques réactions extrêmement violentes sur la toile.
Toujours.
Avec ce sujet, le véhicule électrique, le kilowatt aussi cher que l'essence. On vous rappelle, d'où est parti, Sylvain, ce papier. Vous faites un trajet en MG Marvel Air de Paris pour rejoindre la Marne. Vous avez jugé plus prudent de vous arrêter à la station Ionity avant Reims pour faire la pointe de Watt. Et au moment de l'arrêt, l'ordinateur de bord indique une capacité résiduelle de 47%, soit une autonomie de 118 km. Pour éviter d'attendre trop longtemps, vous vous décidez d'arrêter la charge au bout de 33 minutes avec un pic de charge à 85 kWh. La batterie aurait récupéré 40% pendant cette longue demi-heure. Surprise en rallumant le contact, compte tenu de la consommation du véhicule, l'ordinateur annonce une autonomie seulement de 230 km/h et ça vous a coûté 230 km. Il y a un PV sinon. Et ça vous a coûté quand même une facture de 28,74 €. Là, on a bien mis les choses au point. Hein. Sylvain Resser.
Oui, en fait, Alors, j'ai été l'objet d'attaques en règle. On m'a dit, mais pourquoi vous prenez l'autoroute? Je veux bien, mais si on prend pas l'autoroute, si on prend la nationale, il n'y a pas de borne sur les nationales. Donc,
Et puis après, Sylvain, on va t'expliquer que tu n'es pas obligé de rouler à 130, mais que tu peux aller à 110, voilà, qu'il faut sauver la planète, et on connaît le blablabla habituel. Sauf que ça, le problème, c'est ce que je constate, et c'est peut-être ce que tu vas me dire. Toutes ces minorités qui font beaucoup de bruit aujourd'hui, moi, je trouve qu'elles font du mal presque aux véhicules électriques. Parce que le véhicule électrique, on va dire la réalité, et Sylvain, c'est bien que tu sois là, c'est hyper agréable à conduire, franchement, en toute honnêteté.
Je partage cet avis-là. C'est sûr que c'est très, très agréable. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration. Il y a la puissance et le couple disponibles immédiatement. Là, on ne peut pas le nier. C'est très, très agréable de rouler en véhicule électrique.
Le problème, c'est qu'on en a fait un opposant du thermique, c'est qu'on n'a pas voulu aller sur des solutions de mix énergétique où on laissait les technologies se développer et au final on finit par avoir des clans. Mais c'est un peu le syndrome de la France actuellement, c'est sur tel ou tel sujet, on rentre toujours dans des conflits et des débats entre les pour et les contre. Alors que je pense que Sylvain, quand tu as écrit l'article, t'étais pas non plus dans l'idée, tu t'es pas arrivé en te disant ce matin je vais me faire l'électrique, pas du tout, au contraire. Mais je pense que tu as voulu raconter une expérience et peut-être l'une des failles actuellement sur ces plans.
En parlant d'expérience, racontez-nous le voyage retour, Sylvain, parce que c'est digne d'un film comique, à vous l'expliquer dans votre papier qui est paru le 9 juin dernier dans Le Figaro.
Bah oui, parce qu'en fait, j'ai fait cette expérience quand il y a eu l'épisode d'orage qui a traversé la France. Et donc, au retour, je me suis arrêté au même endroit, mais de l'autre côté de l'autoroute. Bien évidemment.
Et vous restez combien d'autonomie là?
De bûchettes.
Je crois qu'il me restait 17%, il me restait 42 km d'autonomie, donc autant vous dire que.
Il fallait s'arrêter.
On commence à transpirer.
Et alors? Il
fallait que je rentre à Paris, sauf qu'en fait, à cet endroit-là, les bornes de recharge ne sont pas protégées, elles ne sont pas recouvertes. Donc il tombait des cordes. Donc j'ai été trempé au bout de 15 secondes, bien évidemment, et la carte ne marchait pas sur la borne sur laquelle je m'étais connecté, donc il a fallu remonter dans la voiture, se déplacer le véhicule, refaire la même manip, enfin, bref, je vous passe les détails. Mais en plus, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les infrastructures, elles sont pas faites pour recevoir du monde. Si jamais demain il neige, il pleut, il grêle... En fait, vous êtes trempé, quoi. C'est pas très accueillant.
En fait, j'ai résumé cette situation en disant qu'on mettait la charrue avant les pneus. Mais c'est exactement ça. C'est lieu de laisser le temps à une technologie de se développer progressivement, en essayant de regarder, on en parlera en deuxième partie d'émission, toutes les solutions qu'on peut avoir, notamment au niveau du rétrofit, prendre le temps de laisser aux Français le choix de leur prochain véhicule. Et ça permettrait de faire émerger des technologies sans les opposer. Là, on est dans la précipitation. Donc, effectivement, quand on fait un plein d'électrique, c'est vrai, je l'ai vécu, on a une carte et ça demande un petit peu de manipulation, sauf que les bornes ne sont pas protégées, qu'elles sont en plein air. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours agréable. Mon Sylvain, tu n'as pas eu de chance.
Je veux faire un petit calcul, Sylvain Resser. 36,58 €. Voilà, ça, c'était ce que vous avez dû faire en retour, sinon vous étiez vraiment en panne, pour une autonomie seulement de 223 km. Hein. Mais bon, on va faire simple. Et vous m'avez dit, le premier plein, on était à combien?
On était à 28,64 €.
Voilà, plus 28...
En termes de consommation, ça va faire du 2 ou 3 fois le prix.
On est à 65,32 €. Là où on fait un Paris-Ménéhoul, là, c'est juste après Reims, c'est pas très loin. On est à combien de kilomètres d'autoroute, là, en gros?
On est à 200 km.
Voilà. Là, moi, quand je vais voir mes amis à Reims, parce que je fais partie des jurys de la Champagne, etc., pour les vins de Champagne, je fais mon plein dans ma petite voiture thermique. On est effectivement, alors maintenant, dans ces eaux-là, parce que ça coûte
cher.
Hors de prix.
Non, pas à ce niveau-là quand même.
Mais je peux en faire deux allers-retours.
C'est ça, donc c'est coût double. Alors, Ionity, encore une fois, a réagi. Hein. Ils vont arrêter un peu la mascarade parce que c'est...
Oui, mais c'est sûr que c'est pas le réseau qui est le meilleur marché, mais... Encore une fois, quand vous êtes sur l'autoroute, vous n'avez pas tellement le choix. Hein.
De toute façon, j'ai regardé au niveau...
Il faut s'arrêter.
Sylvain, j'ai regardé chez les concurrents. Le différentiel de prix est toujours à l'avantage du thermique, tout de même, pour l'instant. Oui. Alors, peut-être pas dans ces perspectives-là, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui... tant il n'y a pas de fiscalité véritablement gelée, tant qu'on est un petit peu dans le flou, tant que tout le monde fait un petit peu sa vie sans réelle concurrence parce qu'il n'y a pas 50 prestataires non plus qui posent des bornes électriques, eh bien, je ne vois pas, je trouve que l'autorité de régulation de la concurrence ferait bien d'aller mettre le nez là-dedans.
Frédéric est avec nous au 0826 300 300 avec cette question que l'on vous pose. Est-ce que faire le plein, enfin en tout cas avec votre voiture électrique, est-ce que la voiture électrique, on nous ment, nous reviendrait aussi cher, sinon plus qu'une voiture thermique? Salut Fred.
Oui, bonjour à tous. Oui, est-ce qu'elle coûte plus cher? Je ne sais pas, mais à mon avis, elle coûte. Il n'y a pas de raison qu'elle coûte moins cher qu'une autre. Et on peut faire confiance aux politiques que s'il y avait quelque chose financièrement à gratter sur l'électrique, ils n'hésiteront pas à le faire. Mais je suis très content de vous entendre parler aussi bien le journaliste qui a fait son article dans Figaro que vous-même sur le plateau. Voilà, que vous-même sur le plateau, parce qu'effectivement, on a une vision en France d'opposition permanente sur tous les sujets. Et pour l'électrique, bon, on sait très bien, c'est très doctrinal, c'est très idéologique. Moi, je commence à avoir un petit peu de bouteille, et je me souviens quand j'ai commencé à conduire, dans les années 70-80, les mêmes écologistes, certains d'ailleurs sont toujours à la manœuvre, m'ont convaincu d'abandonner ma voiture à essence, qui était terriblement dangereuse pour la santé humaine, parce qu'elle dégageait du CO2 et du plomb et pour la planète, et qu'il fallait absolument prendre du diesel. Donc j'ai fait comme tous les Français, j'ai pris du diesel.
Ben ouais.
Et les mêmes, 30 ans plus tard, me disent « Attention, t'es un mauvais citoyen, il faut prendre une électrique. »
Non, mais sur le fond, il y a une part de vérité, c'est qu'il y a une recherche constante qui permet de faire évoluer progressivement les choses. Mais le problème, c'est de diaboliser les gens qui ont acheté une bagnole, quoi.
Exactement. On oppose les uns contre les autres, alors que, comme vous avez très bien dit, je pense qu'il faut aller dans le mixte. J'aime bien entendre Carlos Tavares, le patron de Peugeot Stellantis, parce que je trouve qu'il a de bonnes idées. Il est très pragmatique. Il faut donner le temps au temps. On ne peut pas demander à des millions de Français, du jour au lendemain, de changer leur voiture, d'abandonner leur voiture pour prendre une voiture électrique qui a quand même un prix conséquent. Je crois que tous les Français ont conscience que un air plus propre est un air plus agréable. On en a tous conscience, mais on est tous prêts à participer. Mais il faut arrêter de nous dire vous êtes des mauvais parce que maintenant vous avez vous fumez une cigarette maïs et vous rodez au diesel. Il faut arrêter avec ce genre de.
Moi je crois. Je crois à l'éconologie, c'est-à-dire je crois que les gens font de l'écologie le jour où c'est avantageux économiquement pour eux. Quand on leur parle de solutions.
Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que même moi dans ma vie de tous les jours, j'essaie de faire attention à des choses, même si ça me coûte un peu de sous. Non, c'est juste une histoire de bon sens en fait.
Oui, mais t'as pas attendu la vague d'aujourd'hui pour faire attention à pas gâcher, etc.
Non, mais je dois avouer que je fais plus attention quand même. C'est-à-dire que ça joue quand même.
Moi, je fais partie de ceux qui, objectivement, aujourd'hui, n'ont pas les moyens d'acheter de la bidoche bio à 100% et de passer dans des trucs d'hygiénisme absolu.
Donc,
et franchement, je vais être honnête, ça va, hein, j'en vis très bien. Mais je crois que tout le monde est prêt à participer à l'effort à partir du moment où on vous explique qu'économiquement, vous n'y perdez pas. Voilà. Déjà, il ne faut pas y perdre. Alors, dans ces cas-là, on fera des choix vertueux. Mais aujourd'hui, pour l'instant, le véhicule neuf qu'on nous propose électrique, il vaut quand même deux fois plus cher. Hein, donc, bon, moi, je veux bien, mais technologiquement, assez rapidement dépassé. Non, je ne suis pas prêt à investir, même si c'est sous perfusion de subventions. Je ne suis pas prêt à investir 40 000 euros dans un véhicule.
Ce que dit Frédéric, moi, ça me fait penser aussi à autre chose. Ça me fait penser aussi que... En fait, y compris, je ne sais pas si Sylvain Risser, vous allez me donner votre avis, dans ceux qui ont acheté des voitures électriques, il y a des différences et déjà des fractures sociales qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que, effectivement, on l'a vu, ceux qui sont passés à Tesla dès le départ sont presque, je ne sais pas comment dire les choses sans être...
C'est le même phénomène qu'Apple, c'est pour les téléphones. C'est-à-dire que c'est presque un club.
C'est ça, exactement.
C'est-à-dire qu'on dispose du chargeur différent. Non mais, Apple et Tesla, même combat. C'est-à-dire qu'on dispose d'un chargeur différent, d'ailleurs c'est bientôt fini pour Apple, on dispose d'un chargeur différent, on a un véhicule qui a une véritable autonomie, ce qui n'est pas le cas des autres, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps des autres marques de véhicules électriques. Bref, Tesla a pris un avantage assez conséquent.
Mais tu vois ce que je veux dire, Sylvain, vous en pensez quoi? On a l'impression quand même que les...
Dis-moi dans quoi tu roules, je te dirai qui tu es.
Voilà,
quoi.
C'est ça.
Il y a plusieurs choses. En fait, déjà, je pense que cette transition est un peu trop précipitée, c'est-à-dire qu'elle a été mal préparée, ou en tout cas, elle se prépare mal. Et je ne suis pas sûr qu'on soit parti du bon pied, parce que quand on voit... les infrastructures de recharge qui sont, devaient être à 100 000 bornes sur l'espace public, qui sont à peine à 60. On nous dit qu'il faudra 1 million de bornes sur l'espace public en 2030 si on veut pouvoir servir tout le monde. Et puis après, je pense qu'on n'a pas assez expliqué au consommateur, finalement, parce que c'est le consommateur qui décide, on lui a pas assez expliqué comment fonctionnaient ces technologies, parce qu'en fait, c'est un changement profond. Ouais. C'est même, j'ai envie de dire, un changement de société, parce que demain, on va attendre des heures à la borne pour que la voiture recharge. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas deux voitures électriques qui ont la même capacité de batterie. Donc déjà, il faut expliquer ça. On a des chargeurs embarqués dans les voitures qui n'ont pas les mêmes performances. Donc on a des vitesses de charge qui sont différentes d'une voiture à une autre. On a les bornes, il n'y en a pas deux qui marchent de la même manière.
Des consommations aussi, si tu es dans le froid ou pas.
Oui, et en fonction de la capacité résiduelle de la batterie, vous allez charger plus ou moins vite. Ouais. Si la batterie a été préparée, si elle est préchauffée, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que les gens n'y comprennent plus rien, personne n'a fait l'effort d'explication.
Sylvain Resser, on aura donc bien évidemment l'occasion de vous réinviter prochainement, puisque ce sont des sujets qui vont être omniprésents, surtout évidemment avec les ZFE, surtout aussi avec l'interdiction des voitures thermiques en 2035. On n'a pas fini d'en parler, et vous savez que sur Sud Radio, on parle vrai, et dans Ça roule particulièrement aussi. 0826 300 300 pour nous rejoindre pour le deuxième sujet que l'on va vous proposer. En attendant, merci à Frédéric de nous avoir appelé de Paris et de nous avoir donné son avis. Et merci à vous, Sylvain Resser, journaliste au Figaro. Au plaisir de vous retrouver prochainement.
Merci à vous. Bon dimanche soir.
Merci à vous. Bon dimanche. Allez, à suivre. La question que l'on vous pose maintenant, que l'on vous pose. Seriez-vous prêt, à faire transformer le moteur de votre voiture thermique en électrique, surtout à l'approche des ZFE? À tout de suite.
Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous continuons notre rendez-vous Ça roule en ce dimanche soir jusqu'à 19h en votre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous appeler dès maintenant au 0826 300 300 si vous voulez échanger avec Pierre Chasseret et sa belle casquette de 40 millions d'automobilistes. Tous les sujets qui ont lieu à un trait avec la route, avec les politiques routières, avec ce qui vous énerve sur la route, vous venez en parler et échanger avec Pierre. Mais tout de suite, voici la question que l'on vous pose. Seriez-vous prêt à faire transformer le moteur de votre voiture thermique en électrique, surtout à l'approche des fameuses ZFE, des zones à faible émission, avec le fait aussi qu'on nous apprend qu'il n'y aura plus de vente de voitures thermiques neuves en 2035. Enfin bref, il y a un bouleversement complet. On vous attend 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Et nous accueillons Arnaud Pigounides, qui est entre autres le fondateur de Rêve Mobility, et qui est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Un mot sur Rêve Mobility ?
Alors Rêve Mobility, c'est une société qui fait du rétrofit électrique, donc changer un moteur thermique essence ou diesel en électrique à batterie ou hydrogène sur trois activités. Rétrofuture sur les voitures anciennes, qui est une niche de choix qui cartonne en ce moment. Sur les utilitaires, donc les flottes professionnelles et les artisans, donc qui sont très concernés par les ZFE dont vous avez parlé, et qui voient dans le rétrofit une très belle solution. Donc on croule sous les demandes, et je peux vous donner des chiffres, c'est assez incroyable. Et aussi une division poids lourd et bus, qu'on vient d'ouvrir, avec le premier bus rétrofité qui circule, et j'annonce aussi que des agglomérations ont l'intention de faire du rétrofit de leurs propres bus. C'est un peu nos deniers, et donc c'est une manière aussi de décarboner des véhicules qui sont déjà là, et donc c'est une nouvelle activité qui est en train d'exploser.
C'est super écologique.
Je te donne un chiffre, un bus c'est 1 million, on va faire simple, ça à peu près.
Non, 600 000 euros.
600 000 euros, un bus
neuf, c'est 600 000 euros.
Ouais, 600 000 euros. Ouais. Si on le rétrofite, c'est combien? 250.
C'est 250.
Mais voilà. Ça c'est génial aussi, juste, on va revenir sur tous les avantages. Mais alors moi, mon cœur tout de suite fait waouh, je suis amoureuse de vous Arnaud Pigounides.
Ah bah,
c'est en termes d'écologie.
C'est gentil. Bon, non, on va vous laisser.
Non mais en termes d'écologie, parce qu'il y a quand même une chose qui est incroyable dans notre monde où on nous parle d'écologie. On met des voitures à la casse, on met des primes à la casse sur des voitures qui pourraient encore rouler. Ouais. Donc on est en train de faire des décharges et des choses écologiquement extrêmement dramatiques, alors que ces mêmes voitures, au lieu de les mettre à la casse, si je continue à les faire rouler avec votre système, je suis encore plus écologique qu'écologique. Bah, quoi.
C'est l'idée. Et puis en plus, c'est de l'économie, c'est-à-dire moi je regarde le prix du neuf sur une voiture électrique, on va être très honnête, c'est pas
la portée de tous. Acheter en masse, parce que là, pour l'instant, le marché démarre. Donc, les tarifs pour des véhicules des particuliers, c'est pas encore le plus attractif que ça va être. Mais effectivement, si on arrivait à développer en masse cette solution de rétrofit, on pourrait, pour quelques milliers d'euros, bientôt... pouvoir donner une deuxième vie à notre voiture, Arnaud.
Comment ça se passe, ouais.
Exactement, en fait, nous on met une demi-voiture neuve électrique dans une voiture ancienne. Donc c'est une chaîne de traction, donc on enlève le moteur, on enlève tout ça et on met un moteur électrique qui est beaucoup plus petit, des batteries à l'endroit où on peut les mettre. Donc dit comme ça, c'est un peu pauvre, mais c'est beaucoup d'ingénierie, beaucoup de travail de sécurité, puisque nous on
parce qu'on les met pas n'importe où. Il faut équilibrer le poids.
Exactement. Et puis on a une réglementation qui est très forte en France qui autorise donc le rétrofit électrique à batterie ou hydrogène, puisque c'est une autre alternative qui va arriver dans le temps et qui peut être une bonne solution, notamment pour les longs trajets. En tout cas, c'est le rétrofit, c'est une solution assez incroyable parce que ça coûte la moitié du prix d'un véhicule électrique neuf. Quand vous prenez une Zoé qui vaut 32 000 euros ou une Tesla qui vaut 60 000 euros, l'équivalent de ce véhicule-là dans une BMW ou dans un Master utilitaire ou dans une petite voiture Clio, et ben en fait, c'est la moitié du prix. Donc en fait, vous êtes à 20 000 euros le rétrofit.
Vous me parlez d'une voiture neuve.
Par rapport à une voiture électrique neuve.
Oui, mais si par exemple je fais rétrofiter, je sais pas, j'ai une vieille C4 diesel là.
Ouais. Mais comme tu vas faire enlever.
Combien ça va me coûter?
Si vous achetez la C4, vous devez acheter un véhicule neuf ou d'occasion qui est électrique d'occasion.
Je ne veux pas l'acheter, moi. Ils ont essayé de me la faire jeter. J'ai dit non.
Combien ça me coûterait là? Parce que tu ne pourras plus rentrer dans les zones à faible émission.
Ouais.
Donc il faut trouver une solution.
Combien ça me coûtera?
Grosso modo, moitié moins pour l'instant.
Alors c'est entre 16 000 et 20 000 euros.
Le rétrofitage,
donc c'est la moitié d'un véhicule électrique neuf, mais surtout, d'une part, on a les mêmes primes que la prime à la casse, et ça je remercie l'État et le gouvernement d'avoir donné une prime équivalente à la prime à la casse, mais pour une prime rétrofit, qui peut aller jusqu'à 9 000 euros pour les particuliers, jusqu'à 17 000 euros sur les utilitaires. Donc c'est une très belle opportunité aussi pour aller vite.
Là, économiquement, il faut penser que le maçon, le carreleur qui nous écoute ou le plombier qui a sa petite camionnette qui est nickel, impeccable, où il a ses habitudes, il a déjà fait les transformations pour accrocher ses outils, il n'a pas envie de l'acheter et il n'a pas le droit de rentrer dans les grandes agglos à partir du 1er janvier 2025. Là, c'est une solution qui lui permettra... Attention, ça veut dire que l'usure du véhicule, c'est-à-dire l'usure moteur, disparaît puisqu'on en remet un neuf.
Oui, ça veut dire qu'en plus, je vais gagner en termes d'entretien de mon véhicule.
C'est évident. L'avantage de l'électrique, c'est qu'en termes d'entretien, il n'y a que dalle.
C'est vrai. Et en plus, vous faites des économies au kilomètre, puisque quand vous êtes dans les zones à faible émission, quand vous avez votre atelier, votre entreprise, et que vous allez dans Paris ou dans les agglomérations pour livrer, plus il y aura de bornes, plus moins ça coûtera cher, puisque vous pouvez aussi le faire chez vous, en heure creuse,
et
la nuit.
Là, on gagne.
Et là, on gagne vraiment.
Vous savez que sur Sud Radio, on parle vrai. Ouais. Juste avant, vous étiez avec nous en studio, le sujet a fait mal un petit peu sur le coût de faire un plein en électricité qui revenait aussi cher, voire plus qu'une thermique.
Ailleurs que
chez soi, on va revenir. Mais tout de suite, je voudrais accueillir ceux qui nous rejoignent au 0826 300 300, puisque vous avez la parole, vous le savez, sur Sud Radio. Guillaume est avec nous. Salut Guillaume.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre, bonjour tout le monde.
Salut Guillaume.
Vous appelez d'où Guillaume?
De Cambrai.
Oh,
vous allez nous raconter des bêtises.
Non, c'est pas ça, c'est qu'on écoute, Sud Radio sur le DAB+, sur le DAB+, à Cambrai, ou sur Internet. Alors vous, est-ce que vous êtes prêt à faire transformer le moteur de votre voiture thermique en électrique, surtout à l'approche des ZFE?
Alors, moi, ça va être très simple. Non. Pourquoi? déjà, je suis un passionné de mécanique, d'automobile japonaise, en particulier Honda. Bon, je suis un petit peu de pub, tant pis. Voilà. Donc, alors moi, c'est très simple. J'aime pas qu'on m'impose des choix, des achats qui ne correspondent pas à mes besoins. Je suis quand même pas idiot. Je vais pas mettre une somme d'argent, même sur du rétrofit ou des choses qui peuvent être intéressantes pour une certaines personnes. Moi, dans mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, quand vous devez aller voir la famille, quand vous avez des voyages organisés, je ne me vois pas le faire malheureusement en véhicule électrique.
Mais vous avez tout dit, Guillaume. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que le rétrofit n'est pas une promesse que l'on fait pour des longs trajets.
Non.
Là, Arnaud Pigounides nous le disait, il met en place cette solution pour permettre notamment d'être... alors pour certains, moi je dis souvent le deuxième véhicule du foyer, mais en fait j'ai tort. c'est plutôt le premier, c'est celui qui vous emmène au boulot, qui fait les courses, les conneries
les
comme
enfants,
ça, les petits trajets. Et en fait, ce qui permet de garder son thermique à côté et sa passion automobile que vous avez et que je partage, notamment pour avoir un véhicule pour partir en vacances et long trajet. Vous voyez, Guillaume, c'est, ça que c'est là que c'est intéressant.
Arnaud ?
Exactement.
Exactement. Enfin, c'est
Arnaud
une réalité.
Piconides pour rétrofit.
Le rétrofit intervient et super intéressant quand on a un deuxième véhicule, quand on a des petits trajets. Nous, on n'est pas du tout des ayatollahs. Moi, je ne suis pas un malade de l'électrique non plus. Par contre, ce qu'il faut, c'est un meilleur mix. Et t'en parlais tout à l'heure, Pierre. C'est vraiment l'important, c'est de pouvoir apporter des alternatives et de n'obliger personne. Nous, on n'oblige personne. Par contre, ce que je vois, c'est que des artisans, il y a une grande mutuelle des artisans qui a fait une étude de toute sa base de sociétaires.
Artisans de bouche, c'est ça ?
Artisans de bouche, donc les professions alimentaires. 46% de leurs adhérents, de leurs cotisants, veulent faire du rétrofit plutôt que d'avoir à jeter leur véhicule et d'acheter un véhicule neuf.
C'est plus sur les grandes villes, j'imagine, plus sur les zones urbaines comme Montpellier, comme Marseille, plus que du côté de la Creuse ou à Rodez. J'imagine que ça reste plus urbain, ces besoins.
Ça dépend en fait de chacun. Ça dépend de chacun, mais
Laurence, autant tu prends.
Non, mais je pensais aux politiques extrêmement.
Ouais, mais je vais prendre
sur
Honda, on prend une Type R. Bon, bah évidemment, l'électrifier, ça paraît un peu presque contre-intuitif. Enfin, c'est pas Guillaume qui va me dire l'inverse.
Par contre,
moi j'ai une petite New Beetle. Tout le monde la connaît pour ceux qui écoutent l'émission depuis 10 ans. Bon, ben voilà, c'est pas un moteur extraordinaire, il n'y a rien. C'est un moteur thermique de base, un litre 4 essence. Bon, je n'ai pas une attache particulière ou un litre 4 essence de
mais
chez Volkswagen dans ma New Beetle.
Oui.
Ma New Beetle, oui. Et je me dis, voilà, pour rouler en ville, tout ça. Et quand j'en ai parlé à Arnaud, il m'a dit, bah, tu sais quoi ? J'ai énormément de demandes de possesseurs de New Beetle.
De plus en plus, oui. Ouais.
Alors, on a Jean-Pierre de Montpellier. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir fait le 0826 300 300. Merci à vous. Passez une belle journée du côté des Hauts-de-France.
Pareil.
Jean-Pierre nous rejoint maintenant, toujours au standard de Sud Radio, dans l'émission Ça roule. Salut, Jean-Pierre.
Bonjour, Manolo. Bonjour, Pierre.
Alors, seriez-vous prêt, vous, à transformer le moteur de votre voiture thermique en électrique ?
Non.
Mais pourquoi non ?
Non. Mais pourquoi ? Pourquoi une catégorie de mecs qui va, enfin, ou de gens aisés, va pouvoir rouler avec des Ferrari, des Aston ou des Rolls, alors que les clampins vont pouvoir se rouler dans les poubelles.
On rappelle pourquoi Jean-Pierre dit ça, c'est que sur l'histoire des 2035 où il n'y aurait plus de voitures neuves thermique, ce serait, on n'aurait plus le droit d'en fabriquer, d'en vendre. Il y aurait actuellement à l'étude une partie où tous les grosses Ferrari et compagnie seraient pas touchés par ça. Voilà, c'est pour ça que dit Jean-Pierre en parle.
Je vais être très honnête avec vous. Pour l'instant, ça reste une rumeur parce que la proposition de la commission a été terrible sur l'interdiction des véhicules. Je vais m'aller plus loin. Le président Emmanuel Macron souhaitait sauver l'hybride et interdire les véhicules thermiques à 2040. On a la présidence de l'Union européenne, donc on pourrait penser que quand même il a un peu d'influence. Et au final, c'est 2035 et les hybrides sont touchés aussi. Donc aujourd'hui, pour l'instant, c'est panique à bord chez tous les constructeurs et c'est tout à fait normal. Mais faut pas opposer. Il faut comprendre les différents usages. L'usage de la petite voiture électrique que vous rechargez pour pas cher à la maison sur les heures creuses qui vous permet de faire les courses et que vous allez amortir, parce que Arnaud, tu nous présentais le prix du rétrofit. Alors évidemment, il y a les aides, c'est bien, mais il y a aussi le coût d'utilisation. Et si c'est un véhicule qu'on utilise pour les gosses à l'école ou aller au boulot où on recharge, là, c'est vraiment, on va faire une économie dans le temps, donc on va amortir en plus cet achat. Il ne faut pas le confondre avec la volonté politique de tuer le thermique. J'ai envie de dire, c'est deux débats différents, Jean-Pierre. C'est ça qui est compliqué, parce que moi, je suis comme vous, je n'ai pas envie qu'on m'impose quelque chose, mais j'essaye de me remettre un peu, avec un peu de recul, et de me dire, ouais, mais enfin, si je peux avoir un truc qui me coûte 4 fois moins cher à l'utilisation. C'est comme si je vous proposais actuellement de payer votre plein à 50 centimes le litre. Vous allez me dire oui.
Le retour à la diligence.
Ben ouais, non mais.
Ou la voiture à pédale pour avoir de jolies
cuisses.
Là, c'est 4 fois moins cher. Donc là, en fait, c'est est-ce que vous seriez prêt à investir 10 000 euros pour payer votre essence à 50 centimes ? Ben, il y en a beaucoup qui vont vous dire oui.
Si c'est 10 000, oui, mais si c'est 50, non.
Eh ben voilà, on est d'accord. Eh ben là, c'est le cas du rétrofit. C'est ce que vous êtes prêt à mettre 10 000 balles dans votre voiture pour l'équiper, pour pouvoir circuler à un tarif 4 fois moins cher.
Alors moi, je vais voir avec Arnaud et je vais mettre un pavé dans la mare. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, on a le prix du kilowattheure actuel. Oui. Mais est-ce que dans 2 ans, 3 ans, en 2035, tu le disais tout à l'heure, il y a 40 milliards. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que ça va rester je me fais l'avocat du diable. Tout aussi intéressant, Arnaud Pigonides.
Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est à partir du moment où on va sur les autoroutes, on demande à avoir des charges rapides, bah, ça demande des infrastructures qui coûtent cher, donc du coup, qui coûtent cher au kilowattheure. Et donc, c'est ce que vous avez eu dans le sujet précédent. Mais nous, si vous êtes à la maison, si vous avez une maison, alors, si vous avez de l'électricité que vous pouvez avoir en heure creuse la nuit et que vous pouvez recharger votre véhicule la nuit pendant que le temps où il dort, parce qu'il faut savoir quand même qu'un véhicule urbain, il passe 95% de son temps statique.
À dormir, ouais.
Eh ouais, le trajet moyen, il n'est même pas de 20 km pour aller du travail, enfin de la maison au travail, après aller au supermarché ou aller voir un concert le soir et rentrer chez soi. Donc en gros, il y a énormément de moyens de faire des économies, il y a énormément de moyens de d'acheter de l'électricité pas chère parce que c'est un usage quotidien qui est plutôt simple, un usage simple, parce qu'on parle beaucoup d'usage, hein, même vos auditeurs en parlent, c'est mon usage qui est le plus important et nous en fait on intervient au moment d'un usage qui est quotidien, qui est petit. Donc le rétrofit avec 180 km d'autonomie, donc c'est aussi une sobriété des batteries hein, par rapport à des véhicules
qui
sont...
Et sobriété et poids des batteries.
Et exactement, ouais, et surtout donc, des économies et le fait d'avoir un usage quotidien avec un véhicule plutôt que d'avoir des mastodontes qui sont beaucoup plus lourds et que tous les véhicules ont une autonomie de 600 km, sachant que oui, il ne faut pas empêcher les grands trajets, il ne faut pas empêcher les gens d'avoir une voiture qui permet de faire des grands trajets. Même limite, moi je suis pro qui reste en diesel ou qui reste en essence pour faire des longs trajets avec une voiture, mais toutes les deuxièmes voitures, tous les utilitaires, tous les véhicules qui travaillent dans les villes mériteraient d'être transformés parce qu'en plus ce sont des véhicules qui valent cher.
Ben moi, ce que j'allais te dire, déjà, premièrement, effectivement, tu vends pas la promesse de faire 800 bornes en véhicule rétrofité, c'est pas l'objectif.
C'est donc plutôt, excusez-moi, monsieur, ça serait plutôt petit.
C'est pas le petit rouleur, parce qu'en même temps,
non,
c'est
petit trajet.
Ouais, c'est petit ça. Trajet, parce que quand on réfléchit, la plupart de nos trajets, ils sont petits.
Ouais.
Voilà. Donc, mais non, la promesse, moi, que je voudrais derrière, et je trouve que le politique doit accompagner le mouvement. J'ai toujours du mal avec des politiques qui te disent de faire quelque chose qu'ils ne font pas eux-mêmes. Moi, j'appelle toutes les collectivités territoriales à lancer des projets de rétrofitage, à prendre les voitures des employés municipaux, parce que les villes vont gagner de l'argent, donc nous on perd à moins, parce qu'elles vont recharger, les gens ne travaillent pas la nuit dans les villes, enfin pas tous en tout cas, les 95% non. Donc j'appelle toutes ces collectivités à faire du rétrofit et à ne pas mettre les voitures à la poubelle ni à la casse. Il faut lancer ce type d'exemple.
Alors, tu touches un point très important, ouais. C'est de convaincre et de montrer que ça fonctionne. Alors nous on vient de faire un tour de France, donc on a traversé 40 villes, ça se finit à Lyon jeudi prochain. 40 villes, 40 agglomérations. On est allé voir les politiques avec un bus, avec des utilitaires, avec des voitures anciennes pour rencontrer nos clients, nos prospects. On a rencontré plus de 3000 personnes.
Ah oui.
Quand même, et donc pour moi, c'était la plus belle opération qu'on pouvait faire. D'ailleurs, qu'on ne pouvait pas faire à cause du Covid. Donc là, on est allé à l'attention des gens. Et donc aussi pour convaincre les collectivités justement de transformer leurs utilitaires, leur flotte et les bus. Et donc de proposer cette solution déjà et donc de montrer que ça fonctionne. Résultat, Rouen fait son premier appel d'offres pour des bus rétrofités. 49 bus, c'est quand même 300 tonnes de CO2 économisées
par bus. Et vous êtes
le
seul à le faire ?
On est trois en France et quelques-uns dans le monde.
Donc wow. Il a une chance sur trois d'être milliardaire en fait.
Non.
Non mais vraiment, je vous aime.
Mais on continue. Rennes et Toulouse qui veulent faire leurs utilitaires, une partie de leurs utilitaires de l'agglomération. Donc en fait, c'est en train d'arriver. Et
il nous reste 30 secondes. Excusez-moi, Arnaud Pigonides de Rêve Mobility pour le rétrofit. Je suis une particulière. Je vous donne ma voiture. Combien de temps ça prend? Et bon, vous avez dit le budget, on va dire entre 12 et 20 000 euros, 16 et 20 000, c'est ça? Mais combien de temps ça prend?
Avant prime.
Donc moins. Côté pratico-pratique.
Alors, transformer un véhicule, ça prend 3 jours.
D'accord.
Donc, c'est pas très très long. Cependant, pour l'instant, on n'a pas tout le catalogue de véhicules qui est mis. Parce que le problème du rétrofit, c'est qu'on se base sur tous les véhicules qui ont été fabriqués aujourd'hui. Donc,
d'accord.
Ce qu'on fait, c'est les véhicules qui sont les plus demandés ou qui ont un besoin impérieux, comme les utilitaires, les véhicules,
d'accord.
Les masters, tout ça, d'être transformés.
Je suis intéressé, je prends des renseignements où, par exemple, pour vous ou pour vos concurrents
Soit chez moi, chez Rêve Mobilities, vous me contactez.
Rêve REV. Hein.
Soit l'association R, donc l'association de l'industrie du rétrofit électrique, où il y a tous les rétrofiteurs qui ont pignon sur rue et qui sont en train de travailler des véhicules.
Et bien voilà, on a fait pas tout à fait le tour, mais on en reparlera parce que c'est quand même une super. Vraiment une.
J'aime bien le discours parce que voilà, on est sur un mix. Et moi, pour moi, la meilleure réponse que l'on peut apporter aux politiques qui veulent imposer un seul modèle, c'est d'aller tester justement toutes les offres de mobilité qui existent. Et pourquoi pas les deux si on a les moyens, évidemment, bien sûr.
Arnaud Pigonides, c'était notre invité fondateur de Rêve Mobilities. Merci beaucoup Arnaud.
Passez
un bon dimanche soir.
Bonne journée.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous sommes en train de terminer notre rendez-vous Sarroule sur Sud Radio. Vous le savez, on parle vrai et on vous donne la parole tous les dimanches soirs. 0826-300-300 pour rencontrer Pierre et échanger avec lui sur un sujet évidemment qui a trait à la route et qui vous touche. Salut Jean-Pierre.
Bonjour.
Salut Jean-Pierre. En principe, c'est toujours un truc qui me met en colère. Donc, Laurence aime bien faire ça. Elle me met en colère à la fin de l'émission. Alors Jean-Pierre, dites-moi tout.
Alors moi, je voulais vous contacter parce que j'ai un sujet. Je suis un vieil adhérent de 40 millions.
C'est une bonne idée.
Et vieux dans tous les sens du terme. Pour vous parler des clignotants qui sont de moins en moins utilisés. Et en particulier, quand on dépasse un deux roues, enfin, ou un obstacle sur le bas-côté de la route, les gens se décalent sans mettre de clignotant. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière ne sont pas avertis qu'il y a un danger qui s'approche, et ceux qui sont en face ne sont pas obligatoirement conscients que ceux qui arrivent face à eux se décalent ou qu'eux doivent se serrer un peu à droite pour leur faciliter le passage. Voilà, ça c'est un truc qui m'énerve. Il n'y a pas un conducteur sur 10 qui met son clignotant dans ce cas-là.
Bon, alors vous êtes accroché
avec une ceinture ?
Parce que, alors déjà, vous n'êtes pas vieux comme vous dites, nous sommes des véhicules de collection. Voilà, déjà, ça c'est dit. Le deuxième point, est-ce que vous saviez qu'il existe une infraction pour le clignotant qui n'est pas utilisé ?
Oui.
35 euros d'amende, donc ça va. Et 3 points en moins sur le permis de conduire.
Est-ce que ça arrive souvent ?
Jamais.
Alors, voilà. Je le constate parce que je pars très tôt le matin sur l'autoroute et franchement, je me demande si on a expliqué à tous les automobilistes qu'il y avait un espèce de truc tout droit sur le côté du volant qui s'agite vers le bas et vers le haut et qui fait clignoter des lumières.
Ouais, moi je dis depuis toujours qu'il faudrait proposer une option quand on achète une
voiture. Je m'en rappelle, vous savez, Ça roule est une émission qui date avec Laurence, je la regarde en même temps parce que ça nous rajeunit pas.
8 ans je crois.
Mais on avait fait une émission un jour parce que nous aussi ça nous touchait, on avait fait une émission, j'ai gardé le jingle parce que je le trouvais très drôle et je l'ai réécouté récemment et dedans on disait le sujet de l'émission c'était faut-il supprimer le clignotant
oui,
vu
vrai.
Que plus personne le met et on avait posé cette question de manière très ironique où Laurence disait tiens c'est bizarre ce truc qui s'allume et qui s'éteint, faut que j'aille chez le garagiste Pierre et je lui disais mais non Lolo c'est le clignotant et on avait fait un truc très rigolo là-dessus parce qu'on en avait ras-le-bol justement de cette absence de clignotants sur les véhicules. Alors, franchement, je partage votre avis, je ne suis pas pour une verbalisation intensive, mais je vais rappeler qu'au lieu de mettre en place des campagnes de pub pour nous faire avaler le 80 km/h qui était objectivement une connerie, et je ne fais que citer le président de la République en disant ça, je préférais qu'on fasse des campagnes du genre 16% des accidents interviennent aux intersections pour des refus de priorité, l'absence de clignotants est responsable d'accidents, notamment sur l'autoroute. Voilà, je préférais qu'on aille sur ce type de thématique et sur ces campagnes de sensibilisation qui existent à l'association 40 millions d'automobilistes et qu'on n'entend jamais dans la bouche de la sécurité routière. Je sais que la déléguée interministérielle à la sécurité routière m'écoute, alors je lui propose cette idée, ensemble, avec 40 millions d'automobilistes, faisons une grande opération sur l'usage du clignotant.
Et ben voilà, ça c'est dit. Et merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir reposé ce sujet si important sur la table.
Je vis à proximité, disons à 300-400 mètres d'une autoroute. Et les seules choses qui nous horripilent, surtout la nuit, c'est le bruit de certaines motos qu'on entend sur plusieurs kilomètres. C'est insupportable, tous les voisins s'en font du même avis. Comment on peut laisser circuler des motos qui font un tel boucan ? C'est pas du bruit, c'est du boucan.
Vous parlez pas des bruits normaux des motos, qui sont un peu trafiqués au niveau du pot d'échappement.
Celles qui hurlent pendant des kilomètres, quand on les suit vraiment sur...
J'ai une réponse courte, et vous allez voir, contrôle technique obligatoire pour les motos qui a été décidé, et forcément ça fait râler à juste titre la Fédération Française des Motards en colère sur beaucoup de points, mais par contre sur ces véhicules qui ont été transformés dans l'objectif unique de faire du bruit, là on a un vrai problème quand même.
Ouais. Ben merci beaucoup à Jean-Pierre et puis voilà le bruit des véhicules, même les scooters ou les mobylettes dans les villes, ça devient compliqué aussi. On en parlera. Merci beaucoup Jean-Pierre, très très bonne fin de week-end dans le Var. On se retrouve dimanche prochain.
Bah, ça roule.
Bah tiens, ça tombe bien. Et toi, tous les matins, dans la matinale, la pré-matinale
avec
de
Benjamin
Sud Radio.
Anglaise à partir de 6h12-13. Mais voilà. Faut écouter plus tôt, Benjamin.
Mais oui, lui commence à 6h.
Ouais, c'est ça.
Bon fun de week-end à tous et prenez soin de vous.